Des grands champions, on connaît précisément leur carrière, leurs exploits, leurs records, mais pas vraiment l'autre côté de leur médaille d'or. Et bien souvent, c'est les petites histoires derrière les athlètes qui leur permettent d'écrire leur grande histoire. Dans Retour vers le futur, le Doc répond à Marty McFly avant le décollage de leur DeLorean.
Hey Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Ah, lui non plus, la route, c'est pas trop son truc, car sa vie, il l'a plutôt passée sur des circuits aux quatre coins du monde à 300 km/h. Champion épisode 11 avec le survivor de la Formule 1, Romain Grosjean.
Comment est-il ?
Un champion du monde.
Champion du monde !
Il est champion olympique !
Champion, mon frère !
Question pour un !
Champion du monde !
Ce qui m'intéresse, ce sont les super champions.
Alors salut Romain, est-ce qu'on peut se tutoyer déjà ?
Carrément.
Ouais, carrément, cool. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais partie des Français qui ont connu une longue carrière en F1, plus de 10 ans. Et tu es aussi l'auteur de 10 podiums dans ta carrière, ça c'est très très rare, c'est une très grosse perf. Cette année, tu évolues en IndyCar. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de la Formule 1, mais aux États-Unis. T'as grandi en Suisse ?
Si, je suis né en Suisse, j'ai grandi en Suisse, ouais. Avec une mère française et un père suisse, c'est pour ça que en fait, j'ai les deux passeports.
T'étais comment quand t'étais plus jeune, ado, t'étais déjà à fond dans la voiture, c'est-à-dire pas trop là en classe ou,
On a fait un deal avec mon père quand j'avais 11 ou 12 ans, il m'a dit, et j'ai commencé à demander à vouloir faire de la course auto, enfin du karting, ouais. Et il m'a dit, tant que t'as pas 17 de moyenne à l'école, on n'en parle pas. Ah bah ça a fonctionné direct. J'ai remonté toutes mes notes et en fait, j'ai passé l'équivalent du baccalauréat scientifique en Suisse.
Ouais.
Et ça a toujours été le deal avec mon père. Il m'a dit, continue à faire de la course auto, mais les études avant tout. Et j'avais un super ami à l'école qui s'appelait Maximilien.
Ouais.
Et donc, il me prenait tous les devoirs, tous les...
Ah, parce que toi, tu n'étais pas en cours, en fait, tu devais...
Je partais faire des courses, notamment le jeudi, vendredi, donc il me prenait les cours.
Et tu rattrapais tout ça.
Je rattrapais tout ça. Et puis, à un moment, j'ai dû passer en école privée, parce que le public m'a dit, et j'aimerais bien retrouver cette personne, elle m'a dit, il faut choisir entre votre hobby et votre future vie.
Ah.
J'aimais bien retrouver cette personne pour lui dire, bah, finalement, j'ai bien fait de garder mon hobby en qui est devenu ma future vie et mon travail. Donc, je passais en école privée et les profs étaient super cool. Ils venaient me filer un coup de main s'il y avait des choses que je n'avais pas compris.
Ouais.
Et donc, ça m'a permis de passer le bac avec une super note.
Et du coup, t'étais déjà beaucoup dans la voiture. T'as eu l'impression d'avoir une adolescence genre normale, quoi. T'as pu faire... Tu vois, comme tous les gamins, ou finalement, tu étais déjà à fond dans le sport ?
Non, j'étais déjà à fond dans le sport. Quasiment tous les week-ends, on était sur les pistes de karting ou de Formule Renault. Donc, je dirais que non, j'ai pas eu une ado normale.
Ouais.
Après, moi, j'ai une ado que j'ai adorée parce que c'est super cool de pouvoir faire ce que t'aimes, quoi.
Ouais. Parce que toi, ton père, je crois, ils sont sportifs, mais ils étaient plutôt dans le ski, bobsleigh, c'est ça t'es...
Alors, son arrière-grand-père qui était champion d'Europe de bobsleigh à 4.
Ouais.
J'ai mon grand-papa qui était vice-champion du monde de ski.
Et alors, comment toi, t'es arrivé à faire de la voiture ?
Bon, finalement, j'ai un peu pris les deux, puis j'ai mis...
Tout dans la vitesse.
Il fait trop froid, ça va vite, j'aime bien, il y a un volant, j'aime bien, il y a des lignes. Écoute, non, en fait, c'est marrant.
T'as toujours aimé ça, quoi ?
Toujours aimé la vitesse, en fait.
Ouais.
Il faut que je fasse quelque chose qui va vite, sinon ça m'embête.
C'est marrant pour un Suisse. Oui, parce que j'ai lu qu'à 13 ans, t'avais pris le volant de la voiture de ta mère. Et tu faisais des pointes à 170 km/h.
Alors sur un circuit, attention.
C'était
un circuit à Lurcy-Lévis, dans le centre de la France. Et mon père faisait des essais, parce que lui s'est mis au sport automobile quand il avait un peu plus que 40 ans. Et il avait, je vais donner la marque, mais c'était une Subaru Impreza. Et donc, j'ai piqué les clés, j'ai dit à ma mère, monte sur le siège passager, puis on va faire des tours. Et effectivement, on était montés.
Ta mère était OK, elle t'a dit vas-y.
Elle criait un peu dans la voiture, ma maman. Mais c'est elle qui m'a appris à conduire, ensuite pour passer le permis de conduire. Donc tu vois, finalement, elle a eu un rôle important dans moi et les voitures.
T'as failli complètement changer de vie en 2009, c'est ça ? Donc tu fais un petit passage en F1, puis ça s'arrête. Et là, à ce moment-là, tu te dis, t'as deux doigts tout arrêter, tu te dis pourquoi pas te lancer dans la cuisine, c'est ça ?
Ouais, exactement. Bah, en fait, il se trouve qu'en 2009, donc, je me fais remercier à la fin de la saison.
Ouais.
Et je me dis, j'ai un bac scientifique en poche, j'ai 23 ans, qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, j'étais passionné de cuisine et je le suis toujours. Et je me dis, écoute, avec ma femme, on se dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je dis, écoute, chef, moi, c'est un truc qui me plaît bien, donc on va faire les...
T'avais des compétences ? Enfin, t'étais déjà un peu bon en cuisine, quoi ?
Ouais, je me débrouillais, et puis surtout, j'avais la chance d'être bilingue en anglais, d'avoir voyagé dans le monde, dans tous les palaces, parce que ça, c'est vrai que quand t'es un pilote de Formule 1, c'est super cool, t'as toujours des bons hôtels là où tu vas. Donc je me dis, bon, je connais un peu le côté luxe, je suis bilingue en anglais, donc bon, les classes préparatoires, pas forcément besoin, et ça me permet de rattraper. Et puis en fait, bah non, on m'a dit que c'était pas possible. Et que,
pourquoi? Parce que...
J'étais trop vieux apparemment.
Ah bon?
Ouais.
Il y a un âge limite pour faire de la clean?
Bah, faut croire, écoute, c'était deux ans de préparatoire, 3 ans ensuite, et j'étais trop vieux, ça passait pas.
Apparemment, t'es aussi un gros fan de Marc Vera. Et tu remates beaucoup ces vidéos.
Ouais, à l'époque, ouais. Tous les matins, je faisais 45 minutes de rameur et tous les matins, je regardais les vidéos de Marc Vera.
C'est ton McFly et Carlito à toi, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Il y a quelques années, dans Quotidien, on a reçu Lewis Hamilton et il expliquait que la Formule 1, c'était un sport réservé aux riches. Enfin, lui, il le voyait comme ça parce que les saisons coûtent très très cher. La sélection se fait aussi par l'argent. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Enfin, tu peux expliquer
100%,
le...
En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu montes à travers toutes les étapes, donc le karting, la Formule 4, la Formule 3, la Formule 2, il faut payer les volants. C'est-à-dire que c'est au pilote de trouver un sponsoring ou un financement pour payer son volant.
Ça coûte combien, en gros, une saison de kart quand t'as 13 ans
Très cher.
Mais c'est-à-dire, c'est quoi? Non, je me rends pas compte.
250 000 euros.
Ah ouais? Ouais. Oui, donc effectivement, ouais, c'est plus cher que prendre sa licence.
En gros, si tu veux, je vais te donner un chiffre. Aujourd'hui, il faut 10 millions d'euros pour espérer partir du karting et arriver à la Formule 2.
10 millions d'euros, il faut.
Et potentiellement avoir une chance de rentrer en Formule 1 derrière.
Waouh! Donc, soit tu es très très riche, soit tu as des sponsors, c'est ça?
C'est ça.
Et en Formule 1, il y a aussi un truc un peu bizarre, peut-être que tu m'expliques. C'est parfois, dans les écuries, tu as l'impression que c'est même pas le plus talentueux qui a pris le baquet, parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, notamment les mecs tu vois, qui ont beaucoup d'argent, parce que c'est beaucoup d'argent la Formule 1. Enfin, moi, j'ai vu cette histoire du mec qui a racheté Aston Martin et qui a mis son fils pilote, quoi, il a dévoilé, vas-y, champion, alors que c'est peut-être pas forcément le plus talentueux, quoi.
Effectivement, il y a Monsieur Stroll, Lawrence Stroll, qui a racheté. Ça devait s'appeler Force India à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Aston Martin, effectivement. Ouais. Et donc, il a son fils qui fait de la course automobile, qui a fait une bonne carrière, honnêtement.
Qui a un bon niveau, ouais.
Qui a un bon niveau, et du coup, on sait que chez Aston Martin, il y a une place qui est réservée pour son fils. Ça, c'est comme ça.
C'est fou,
et puis, il y a d'autres écuries où effectivement, il y a des pilotes qui amènent jusqu'à 20 millions de dollars par année. Pour pouvoir rouler dans la voiture.
Et alors que finalement, il y a peut-être des mecs meilleurs, mais qui n'ont pas ces financements-là.
C'est ça, et si on prend l'exemple de mon écurie l'an dernier, Haas, les résultats n'étaient pas ce qu'ils étaient. Le sponsoring de l'équipe est descendu, et en fait, c'était soit ils fermaient l'équipe et ça s'arrêtait, soit ils trouvaient deux pilotes qui étaient capables de ramener le budget qui manquait pour pouvoir faire de la course automobile. Donc, mon coéquipier et moi, on s'est fait remercier. De toute façon, bon, j'avais pris la décision que pour moi, c'était fini. C'était j'avais plus envie de me battre pour les dernières positions. Ça ne m'intéressait plus. Mais voilà, c'était le cas, quoi. S'ils n'avaient pas deux pilotes qui amenaient les 50 millions qui manquaient, ça s'arrêtait.
Donc, les pilotes, c'est un peu les têtes de gondole. Enfin, c'est aussi votre rôle de ramener de l'argent pour l'écurie.
Écoute, notre rôle, c'est d'être... rapide, bon, ouais. et commercialement intéressant. Parce que forcément, la Formule 1 et le sport, c'est l'image est importante. Et avoir un pilote qui est capable d'aller représenter une marque, de bien se tenir, de bien parler, c'est sûr que c'est clé pour les sponsors. Parce qu'ils se disent, bon, en plus d'avoir un autocollant sur la voiture, ce qui est bien, c'est de la visibilité. On a aussi un personnage, et puis les gens, c'est ce qu'ils aiment, c'est rencontrer les pilotes. Ouais. Qui est capable d'aligner trois mots et puis de venir faire une soirée avec les clients.
Et alors, c'est un sport qui coûte très cher, mais c'est un sport aussi où on gagne beaucoup d'argent. Est-ce que parfois, toi, tu as senti un décalage avec les, je sais pas, les gens, tes amis, tu vois, quand tu commences à gagner beaucoup d'argent?
Écoute, je pense qu'il y a forcément la F1, tout le monde voit ça comme un sport où on gagne beaucoup d'argent. Et oui, Lewis Hamilton, il doit être à 50 millions de dollars.
Ouais, on a regardé tout à l'heure, 50 millions.
C'est ça, donc c'est fou.
Mais il y a aussi un pilote qui a regardé le moins payé, c'est 150 000.
Ouais, c'est ça. J'ai connu moins. J'ai connu des pilotes qui gagnaient 75 000 euros par année.
Ah ouais.
Et là, tu te dis, il est quand même top 20 mondial.
Ouais.
Il a arrêté ses études tôt pour tenter d'être sportif. Si tu remets
ça. Il a dépensé 10 millions d'euros pour arriver dans sa voiture et il en gagne 75 000 par an.
Donc, il y a cette image, effectivement, tu gagnes beaucoup d'argent en Formule 1, c'est sûr, on n'est pas à plaindre, on gagne très bien notre vie. Enfin, j'ai très bien gagné ma vie, mais il y a aussi le côté risque.
Le Français Romain Grosjean a été victime d'un terrible accident. Sa voiture a été littéralement coupée en deux avant de prendre feu. Le pilote s'en est pourtant sorti indemne.
ton énorme accident au Bahreïn, tout le monde s'en souvient. Et direct, toi, t'as voulu remonter dans une voiture. Ça n'a pas été compliqué pour ta famille, pour convaincre peut-être ta famille, de leur dire « j'ai envie d'y retourner ». Il ne devait pas être hyper chaud, quoi.
Ouais, non, écoute, c'est vrai que... Je pense que c'est pour eux que ça a été le plus dur. Parce que pour moi, même sur mon lit d'hôpital à Bahreïn, l'objectif, c'était de revenir pour mon dernier Grand Prix en Formule 1, qui était pas le week-end d'après, mais le sur-week-end. Et je faisais tout pour essayer de revenir là-bas. Bon, à un moment, on s'est rendu compte que c'était impossible. Mais c'est vrai que pour moi, l'idée d'arrêter le sport automobile, ça n'a jamais été une option.
Ouais. Ça ne doit pas être facile d'être femme de pilote, quoi. Parce que,
non, ça doit être compliqué.
J'imagine, vous en avez déjà parlé, mais du coup, à chaque fois que tu fais une course, elle est stressée pendant toute la course. Ça doit être horrible, quoi.
Écoute, je pense que oui, surtout après ce qui s'est passé. Ça doit ça n'a pas toujours être drôle, mais c'est pour ça que je dis qu'elle a été top. Et puis, bon, tu vois, c'était pas une surprise que je devienne pilote automobile. Elle m'a connu, j'étais pilote automobile, et on sait que voilà, il y a des risques liés au sport. Mais bon, on a eu un méchant rappel, je dirais, en fin 2020.
Oh, il y a un gros crash derrière! Oh là là, mon Dieu! L'accident de la Haas qui a pris feu! Il faut vite intervenir sur cette voiture! Drapeau rouge! Oh, l'accident de Romain Grosjean! C'est Romain Grosjean, là, qui a eu un énorme accident!
Pour moi, ce jour, ça a été une expérience assez terrible, mais en même temps, une expérience... Enfin, ça a été quelque chose de positif à la fin. Puisque je dirais que depuis l'accident, je vois la vie de façon très différente. Et en fait, je suis beaucoup plus content et heureux maintenant qu'avant. Parce qu'on se rend compte que la vie tient à un fil. Et qu'en fait, chaque seconde a un bonus. Donc, j'en profite à fond.
C'est une near-death experience, on appelle ça. J'ai vraiment dit que ça change totalement la façon de voir la vie ensuite, quoi. Donc toi, ça t'a vraiment fait ça, quoi.
Ouais. Alors, je le souhaite à personne. Ouais. Parce que franchement, c'est pas drôle. Après, oui, ça change la vie d'une sacrée manière. Quand on est, on grandit et on se dit que la vie, c'est normal, quoi. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et quand tu passes pas loin de la correctionnelle, c'est sûr que ça change les choses et qu'on se dit que la vie, elle tient à pas grand-chose. C'est quand même fou de devoir en arriver là pour s'en rendre compte, mais oui, c'est clair que ça a changé ma vie. Mais encore une fois, quand je dis que c'est une expérience positive, les gens me regardent, il est fou, lui. Non, et c'est vraiment, ça a changé ma vie pour le mieux. Chaque seconde, c'est du bonus. J'adore passer du temps avec mes enfants. Je suis dans les bouchons dans la rue, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais en fait, tout est vachement plus cool.
Tu te dis que c'est que durable, quoi, en fait, c'est ça le truc.
C'est ça, c'est tout durable. Et puis, écoute, j'ai de la chance de ne pas avoir trop de séquelles non plus. Ouais. Une main gauche un peu abîmée, je vais avoir une greffe à la fin de l'année. Et ça devrait aider les choses, mais voilà, c'est pas énorme.
Et puisqu'on en parle, tu as eu le temps de... Enfin, tu comprends quelque chose à ce moment-là, ça va tellement vite, le truc, tu captes même pas.
En fait, en moins d'une seconde, il y a eu la touchette et tout qui s'arrête à zéro et le feu. Donc en fait, j'ai pas vraiment de souvenir du moment où j'arrive sur le mur.
Oh, mais elle s'est coupée en deux, la voiture. Mais non,
elle s'est coupée en deux. Comment a-t-il fait?
Oh là 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 là.
Elle s'est déchiquetée parce que le rail s'est coupé et a coupé la voiture en deux. Il a eu une chance inouïe.
Après, en revanche, dans les flammes et tout, ça, je me souviens
de. T'as perdu connaissance ou pas, ou...
Non.
Même pas.
Non. Non, ce qui a été ma chance monstrueuse, parce que...
Ouais, sinon, c'est...
Sinon,
parce que t'es resté 27 secondes, c'est ça?
27 secondes dans le feu, ouais.
Là, les images, elles sont ultra impressionnantes, pour les gens qui les ont pas vues.
C'est un truc de ouf que, même au cinéma, on n'a jamais pensé à faire quelque chose comme ça, donc...
C'est vraiment taré. Et d'ailleurs, est-ce qu'à ce moment-là, pendant les 27 secondes, t'es dedans, justement, tu penses à... On pense à ce genre de choses-là, quand t'es, je sais pas, ta famille, te dire je vais peut-être mourir là, ou en fait c'est de l'instinct et t'es dedans et tu te dis bon, faut que je sorte de ce truc.
Non, écoute, c'est mes enfants qui m'ont sauvé.
Ah ouais?
Clairement, à un moment où j'ai cru que j'allais mourir.
Tu t'es dit là, je vais mourir là?
Ouais. En quelques secondes de réussir à trouver la sortie, j'ai commencé à me poser la question de où est-ce que je vais brûler en premier, est-ce que ça va faire mal. D'accepter en fait le fait que ça allait être la fin.
Parce que t'étais coincé, c'est ça dans
ouais,
le...
J'étais coincé sous les rails, la chaussure coincée dans les pédales, dans le feu, il faisait nuit, la voiture était inclinée sur le côté, donc en termes de spatio-temporel, je savais pas trop où j'étais. Ouais. Et puis à un moment, je me dis, mais je peux pas laisser trois enfants sans papa, donc et c'est à ce moment-là où j'ai réussi à casser le truc qui me bloquait et à trouver la solution, quoi.
Waouh! L'ambiance en F1, en tout cas de l'extérieur, tu dis c'est 20 mecs, bon alors, bien évidemment il y a toutes les équipes autour et tout, mais qui font le tour du monde, qui vont s'affronter dans les circuits incroyables autour du monde. Et vous vous connaissez tous, non? C'est quoi l'ambiance?
Il n'y en a pas.
Ah ouais?
Ouais, on comment fait ça, chacun pour soi.
Même le mec qui est avec toi, ton coéquipier, c'est pas...
Ben en fait, le problème de la Formule 1, c'est que comme toutes les voitures sont différentes, le premier pilote que tu veux battre pour montrer que t'es bon, c'est ton coéquipier.
Ton coéquipier, il a la même voiture que toi, non?
Il a la même voiture que ouais. toi, mais du coup, il faut le battre.
Oui.
Parce que si tu le bats pas, c'est que t'es moins bon que lui. Donc, bon. S'il y a une chance dans une meilleure équipe, c'est lui qui va l'avoir. Et en fait, ça crée une atmosphère super malsaine.
Ah ouais. T'as une compétition, en fait, entre les...
La plus grosse compétition, c'est entre coéquipiers. Ah et c'est très rare de voir des coéquipiers qui s'entendent bien. Quelques équipes qui arrivent de temps en temps. Ouais. Mais... Et puis même entre pilotes, comme t'as que 20 places dans le monde, en fait, il y a très peu d'échanges.
Ouais.
Et j'ai jamais fait un dîner avec,
tes coéquipiers,
aucun coéquipier ou même autre pilote en 10 ans de Formule 1.
Ah ouais, c'est dingue.
Alors qu'en IndyCar, c'est totalement différent. En IndyCar, on a tous des bus, donc on se garde tous au même endroit, on fait un barbecue le soir.
Il n'y a pas d'équipe, c'est pareil, c'est des équipes.
Si, il y a des équipes, mais toutes les voitures sont les mêmes.
Ok.
Quelques petits détails près.
Ouais.
Et du coup, en fait, il y a une super ambiance, il y a un super respect. Et j'ai trouvé une atmosphère que j'avais jamais connue ailleurs auparavant et qui est fantastique parce que c'est le soir, c'est voilà, toute la journée on travaille dur, le soir on fait un barbecue entre nous,
ouais.
Le lendemain matin on met le casque, c'est la bagarre en piste,
ouais.
La course est finie et allez les gars, on va boire une bière et manger un burger tous ensemble, et c'est cool quoi.
Ah ouais, c'est trop bien. Mais attends, je reviens à la fin parce que ça me paraissait hallucinant ce truc. T'as jamais eu des problèmes avec tes coéquipiers? Je me souviens que quand t'étais avec le champion du monde Kimi Raikkonen dans la même équipe, parfois c'était super tendu.
Chez Lotus, c'était Kimi is faster than you, please don't hold him.
Tu as dit quoi?
Kimi est plus vite que toi, ne le retiens pas. Ouais. Mais ça voulait dire laisse-le passer.
Ah ouais?
Ouais.
Ça doit être terrible quand t'es compétiteur.
C'est horrible, surtout que la saison 2013, j'ai commencé à prendre le dessus sur lui, j'étais souvent devant. Et lui était en renégociation de contrat pour l'année suivante, donc l'équipe faisait tout pour lui faire sentir que c'était le numéro 1.
Ouais.
Et il y a un paquet de courses où j'ai dû le laisser passer.
Ça doit être tellement
finir
dur.
Finir derrière
ça.
Lui alors qu'en fait j'aurais pu finir devant.
Ah, ça doit être terrible. T'as vu là, j'imagine, t'as vu la série Netflix, parce que tout ce que tu me racontes, j'ai l'impression.
Ouais, alors la saison 3, je l'ai pas encore fini, mais je l'ai vu. Après, je trouve que ça a été pour la Formule 1, ça a été extraordinaire de montrer un peu l'envers du décor et ce que les gens peuvent pas voir. Donc ça a été
c'est
cool.
C'est fidèle à la réalité ou c'est quand même très monté
C'est très américain.
Ouais.
C'est très américain. Après, ce qui est drôle, c'est que les personnages, tu reconnais les personnages malgré le montage fait à la Netflix.
Ouais.
Le seul reproche que je ferais, c'est qu'ils ont décidé, d'un angle par équipe. C'est-à-dire si Haas, alors sur la saison 2, c'était les problèmes avec Rich Energy et le sponsor et tout. Ils avaient décidé que voilà, ça allait être que du négatif, le sponsor qui ne paye pas, les mauvais résultats et tout. Et je trouve qu'ils n'avaient pas montré forcément le travail des ingénieurs et des mecs qui n'avaient jamais rien lâché jusqu'au bout. Mais après, oui, c'est, en termes de notoriété et tout, c'est extraordinaire.
Quand tu roules normalement, tu te fais pas chier sur la route.
Si, non, c'est sûr. Une voiture, après, voilà, une voiture, c'est fait pour se déplacer, c'est un super moyen de transport. Et une voiture de course, c'est fait pour aller vite. Mais c'est vrai que la route, c'est pas le côté le plus plaisant.
Au niveau du permis, t'es bien, t'as jamais fait un gros excès de vitesse, toi?
Non.
Sérieux?
Ouais.
Tu respectes les limitations?
Ouais, plus ou moins. Plus ou moins.
C'était quoi ta première voiture?
C'était une Alfa Romeo 147.
Enfin, je me rends pas compte du tout de ce que c'est. Est-ce que c'est c'est quoi, c'est une berline, c'est une grosse voiture?
Non,
ou
c'est une petite... genre la taille d'une Audi A3.
Ok. Quand même. Ouais, ça je vois.
Ouais. Donc c'était une super voiture. Je l'adore. Elle était rouge, elle était trop belle.
La voiture de tes rêves, celle que tu trouves la plus belle, parce que j'imagine que.
J'en ai une que j'adore par-dessus tout. C'est la Lancia Delta HF Integrale Evolution 2.
Waouh.
Wow, c'est quoi ça? C'est pas de ma faute. Ils en ont fait plein des Delta. Donc ça a commencé en 88, ça a continué jusqu'aux années 2000, je pense. Mais les vrais Delta, la dernière, c'est 94.
Ouais.
Didier Auriol a failli être champion du monde des rallyes avec. Et du coup, pour moi, j'ai regardé cette année-là le championnat du monde des rallyes. J'ai pleuré quand il a perdu dans le dernier rallye de l'année. Et c'est la voiture que j'aime par-dessus tout, qui était sponsorisée par une marque d'alcool à l'époque, qui était une marque super présente en sport automobile. Et voilà, c'est pour moi la plus belle voiture que tu peux faire.
Et la pire voiture que tu aies jamais conduite? C'était quoi?
La pire voiture que j'ai jamais conduite, je dirais que c'était la Lotus de 2014, la Formule 1 de 2014. C'était une espèce de trapanel pas possible.
Pour terminer, je demande à mes invités un panthéon personnel. Je leur demande leur livre culte, film culte, acteur.
Alors, écoute, mon livre culte, j'adore les autobiographies.
Ouais.
J'ai adoré Agassi, Nadal. Alors, ouais, Agassi, c'est dans le tennis. Mais Agassi, elle était vraiment bien.
Ouais, je l'ai lu. Elle était très bien. Ton film culte ?
Les Bronzés font du ski. Parce que c'est indémodable, ouais, c'est fantastique.
Toujours. Et donc en acteur ?
Je te remercie.
Ton actrice, si t'as une actrice qui te. Qui
une actrice préférée. Écoute, je dirais Alice Taglioni.
Ah ouais ?
C'est une histoire avec ma femme. Quand j'ai rencontré Marion,
ouais.
Qui est une petite brune très belle,
ouais.
Elle m'avait dit, alors c'est quoi, tu vois, l'actrice que tu trouves trop belle ? Alice Taglioni. Alice Taglioni, grande blonde. Elle m'avait dit, tu vois.
Elle l'a mal pris.
C'est pas super bien passé. Un jour au restaurant, je me suis retrouvé assis à côté d'Alice Taglioni.
Ouais.
Je faisais pas le malin.
Tu lui as parlé ?
Non.
Il y avait ta femme à côté ?
Il y avait ma femme à côté.
Ah ouais,
elle m'avait dit,
ouais.
Bah, vas-y, parle-lui maintenant. Non, mais, et donc voilà, écoute, c'est pour la petite blague, l'anecdote. Et, c'était il y a maintenant, je sais pas, 13 ans.
Ouais.
Comme ça, ça fait super longtemps qu'on est avec Marion. Donc je peux le dire ouvertement. C'était rigolo. Elle m'a dit, bah, on est presque les mêmes.
Elle avait dit qui, elle ?
Qu'est-ce qu'elle avait dit ? Oh, je sais même plus. Quand un mec bien gaulé.
Ouais. Tu vois, ça marche aussi dans l'autre
ouais,
sens.
Oui, c'est ça.
Elle te dit Dwayne Johnson.
Ah, Jude Law, que j'ai rencontré d'ailleurs. Que j'ai rencontré, qui adore la Formule 1. Et je lui avais envoyé une photo avec Jude. Elle m'a dit, pourquoi je suis pas là ?
Et une série ? Tu regardes beaucoup de séries ou pas ?
Une série, je regarde pas mal de séries, ouais. Bah, j'ai adoré Suits.
Ah ouais ?
Avec Harvey Specter et Mike Ross. Je pense que c'est la meilleure que j'ai regardée récemment.
Ah ouais, parce que ça date un peu.
Ouais, ça date un peu, mais j'étais en retard.
T'es revenu, ouais,
ça, c'est le côté suisse. Il n'y a pas le feu au lac.
Bah, trop cool. Bah, merci beaucoup, Romain. C'est trop bien. Merci. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute. Et comme d'hab, mettez des petites étoiles si ça vous a plu. Comme ça, on sera mieux référencé et on pourra dépasser les couilles sur la table au classement des podcasts. Et ça serait vraiment costaud. Hein. Merci d'avoir écouté Champion. À la prochaine. Salut.
I saw your Be Good Baker running by again the other day, says I to old Mr. Brennan. Ah, yes, says he. I've never seen her stand still. And she's running rings around the rest of us with our Brennan's Be Good bread. Only 60 calories a slice. 60 calories, says I. That's just a whole meal, is it? No, says he. It's the whole meal, the whole grain and the white. 60 calories a slice and high in fibre, whatever way you slice it. That's why anything baked is better with Brennan's. Today's bread today.
It's Owen and Murph here, and we want to talk about the good people at Now who are sponsoring this episode and have some exciting news to tell us about the return of the Formula One season, which kicks off on March 2nd.
Oh, well, this sounds great, but where do I catch all of this high-octane action?
Murph, you can stream all the F1 Sky Sports action without a contract for just €20 a month for 12 months with a Now Sports membership. If Formula One's your game, then Now is the name.
You're really revving my engine, McDevitt.
Ah, pit stop it with all the puns, Murph.